Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mardi, il est 21h et c'est un générique barbu. Et vive le barbu!
Et vive les barbus!
Ah, on parle pas de moi là!
Et vive les barbus! Bonsoir à tous, bonsoir Méduse!
Salut Mortel!
Et bonsoir nos chers invités, bonsoir Kaliken!
Bonsoir!
De DS in Paris qui vient là
c'est
juste
ça.
Parce qu'il a rien d'autre à foutre le mardi soir!
Voilà!
Il est au comptoir du Dejobar!
Bon. C'est ça! Dejobar maintenant! Alors c'est ta troisième participation consécutive
tout
à Dejobar!
Tu as donc.
Tu as donc gagné un gage.
Ah.
C'est toi qui vas devoir faire la blablague à la fin de l'émission.
Oula.
Vous aventurez
en terrain. Voilà, à la
ok.
Donc on prend un gros risque, hein, mais
ah ouais.
Mais on assume.
D'accord.
Et donc il y a aussi Fro, mais qui apparemment a plus de son. Fro. Non mais c'est officiel, il a plus de son. Donc Fro qui va quitter et revenir, je pense, parce que là, je sais pas ce qu'il a fichu, mais...
Ouais, Vogel, j'ai plus de son, je sais que j'ai plus de son.
Ah, non, ça y est, il a du son.
C'est bon.
Nous, on l'entend.
Oh.
Bon, finalement, il a du son, donc je sais ce qu'il faut. Bref, donc dans le pire des cas, il reviendra.
Voilà, qu'allons-nous aborder ce soir comme sujet
Alors, on va, dans la première partie de l'émission, faire un petit truc un peu spécial, on va faire un tour... Alors je vous transmets le Fro qui nous dit que son casque déconne, donc voilà, il revient. Donc dans la toute première partie de l'émission, on va faire en fait un tour de table étendu de l'actualité, parce que c'est bientôt le 3, et donc pour bien se préparer, on va aborder toutes les petites nouvelles qu'on a besoin de savoir pour pouvoir aborder sereinement cette E3 et se préparer correctement.
Tour
donc,
Ouais.
Donc n'oubliez pas, pour vous préparer à l'E3, il faut une bonne dose de lubrifiant, hein, parce qu'il faut toujours lubrifier. Ça fait jamais de mal. Et n'oubliez pas de sortir couvert, c'est important. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de Nintendo bashing. Je n'en dis pas plus pour l'instant, parce que c'est vrai que ça risque d'être assez... assez sanguinolent.
Oui.
Tout à fait. Et on va commencer par notre traditionnel tour de table de l'actu, qui se prolongera donc en première partie. Méduse, tu voulais justement faire une petite introduction à E3, donc je te laisse commencer.
Oui, voilà, vu que c'est le dernier Dejobar avant l'E3, le gros salon annuel qu'on ne rate jamais, et que Mortal et moi traduisons en direct depuis 2010, on voulait simplement rappeler justement qu'on va traduire en direct toutes les conférences. Et ce qu'il y a de particulier cette année, c'est que justement Nintendo, en plus de son Nintendo Direct, on n'aura pas besoin de traduire puisque lui, il sera en français, en plus de son Direct, va faire des streamings réguliers pour présenter les jeux qui auront été montrés pendant le Direct. Donc on peut s'attendre à des séquences de gameplay commentées par, si pas par des développeurs, par des gens exprès qui sont là pour présenter le jeu. Et ça c'est super intéressant parce qu'on va essayer de pouvoir, enfin on n'a pas encore le calendrier actuellement, mais on va pouvoir traduire tout ça et directement bien comprendre ce qui se passe dans les jeux plutôt que d'attendre 53 retours de la presse ou 12 démos, 12 vidéos, etc. Donc on aura une grande instantanéité. Une grande présence, mais surtout on essaiera de réussir à se réveiller à 3h du matin pour la conférence de Sony.
Ce qui va pas forcément être simple, et je te promets que cette année, moi aussi, je vais essayer de me réveiller à 3h du matin pour la conférence de Sony.
Ouais.
Et comme c'est toi qui as eu la petite nouveauté aussi,
cette fois-ci
ce sera sur Twitch.
En plus. Ouais. Donc habituellement, on avait juste. Habituellement, on fournissait la radio, donc comme quand on écoutait de Jobard, les gens ils mettaient play et puis ils mettaient leur flux vidéo à côté, et nous on apportait la traduction française simultanée, avec toutes nos petites conneries par-dessus évidemment. Et là, on va toujours proposer la radio, mais en complément, on va proposer sur Twitch le streaming vidéo pour directement que vous ayez tout dans le même machin. Et alors, au cas où si ça foire, on peut toujours se rabattre sur la version radio. Et voilà où ça va être cool, et ce sera en 720p 30 images secondes. Pas mal.
Mmh, que de belles promesses, contrairement à Watch Dogs donc.
Contrairement à Watch Dogs sur les consoles qui viennent de
les consoles, les consoles noires, noires moches et de temps en temps légèrement inclinées sur la façade.
Ouais, et beaucoup trop chères.
Et beaucoup trop chères. D'ailleurs, Frosties voulait nous parler de Watch Dogs, ça tombe bien, nous lui avons dressé un pont d'or avec cette introduction pas du
un
tout foireuse.
Pont d'or, carrément.
Oui, un pont d'or.
Non, mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire, moi. Juste le soutien d'Ubisoft à fond les ballons pour Nintendo, quoi. Donc pas de date pour Watch Dogs sur Wii U, et puis bah, un support pour l'E3 avec zéro jeu sur Wii U et zéro jeu sur 3DS. Donc je crois qu'on peut mettre définitivement mettre une croix, au moins pendant un an ou deux, sur Ubisoft si t'es un joueur Nintendo. Quoi.
Tu t'attribues ça à quoi, toi? L'insuccès d'un Zombie U, l'insuccès d'un Rayman Legends, ou c'est juste que bah, ils en ont leur claque et que ce qui les intéresse, c'est de développer pour les deux gros, et puis si l'autre ça marche moins bien, bah tant pis pour lui.
Bah ils font la même chose qu'a fait Electronic Arts pendant des années, ou Activision, quoi, développer sur les consoles les plus vendues. Donc après, c'est aussi de la faute de Nintendo à côté, hein, la Wii U se vend pas bien. Mais voilà, faut pas attendre grand chose, quoi.
On en discutera tout à l'heure, mais c'est pas nécessairement que de la faute de Nintendo si la Wii U se vend particulièrement bien.
Si elle se vend pas bien, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de jeu. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de jeu, pas de jeu d'attente.
Ouais, mais c'est un petit cercle vicieux.
Enfin,
on en discutera tout à l'heure. À propos justement de la version Wii U de Watch Dogs, je me suis rendu au. J'habite une ville de 200 000 habitants et il y a un gros magasin de jeux qui fait à peu près office de fournisseur pour toute la région. Donc je me suis rendu en fin de matinée pour voir un peu comment ça se passait par rapport à Watch Dogs. Et évidemment, c'était la blinde, le jeu ils ont par camion entier. Alors ce qui est marrant, c'est qu'avec le jeu, pour les gens qui avaient réservé, il y a un petit feuillet d'Ubisoft qui est donné, un petit de taille A5, quoi, un recto verso, avec un code pour avoir des bonus de précommande. Et sur ce code-là, t'as les explications pour la Xbox One, pour la PS4, et aussi pour la PS3, la 360 et la Wii U. Le fait que la version, elle soit pas encore sortie, quoi. Donc, on peut imaginer que la Wii U, la version, enfin, parce que, avec ce qu'il y a eu et tout ça, on aurait pu s'imaginer qu'Ubisoft, ben, c'est fini, de toute façon, ils vont attendre un petit peu quelques mois que ça se passe, et puis ils vont annoncer que la version Wii U de Watch Dogs est annulée. Mais actuellement, il y a juste rien qui va dans ce sens-là. Donc, ouais, on peut être à s'attendre à une version Wii U après.
Ah non, elle est vraiment prévue. Hein. Elle est en développement.
Mais elle est aussi vraiment annulée, quoi.
Ubi Roumanie. Ouais. Mais mais c'est le portage, en fait. Enfin,
j'en ai une bien. Ubi Roubignol. Voilà.
Roubignol. Wouh!
Voilà, c'était une blague bien. Voilà, Kaliken, tu vois de quoi il faut t'inspirer maintenant. Hein, c'est à peu près ce niveau-là qu'on recherche.
Attends, je suis en train de chercher sur Internet. Vous avez fait une grosse erreur en me demandant de faire des blagues. Hein.
Mais on assume.
Ouais, bah, vous verrez tout à l'heure.
Et d'ailleurs, les gens qui ont jeté Watch Dogs doivent bien se marrer parce que les serveurs d'Ubi sont juste morts depuis une heure. Et comme les gens doivent se passer par Uplay et tout ça pour se connecter, ils doivent tous râler dans leur fauteuil en attendant que ce soit réparé.
Bref, bon, je vais enchaîner sur le dernier petit sujet avant qu'on entame le tour étendu de l'actualité de la première partie d'émission. Vous savez tous ce que c'est qu'un émulateur?
Non.
Oui.
Pour les gens qui ne savent pas. Donc le principe d'un émulateur, c'est de recréer avec un programme quelque chose de matériel, un processeur graphique et ainsi de suite. Dans le jargon, on dit que, alors sans aucun sous-entendu, hein, on dit qu'on fait du soft avec du hard. Non, du hard avec du soft.
La base.
Donc on fait du hardware avec du software, c'est-à-dire qu'on va recréer un composant hardware, mais on va le faire intégralement en programmation.
Dans la matrice.
Tout à fait. Et donc un émulateur, bah, ça sert à jouer à des vieilles consoles ou des choses comme ça. Vous savez tous ce que c'est qu'une save state parce que vous avez tous utilisé un émulateur.
Oui.
Exactement.
Voilà. Oui. Une save state, je vous rappelle le principe, hein, c'est on va sauvegarder l'intégralité de la RAM de la machine en cours d'exécution à l'intérieur de l'émulateur et l'intégralité des registres de chaque processeur. Et on va mettre tout ça dans un gros fichier. Ce qui fait qu'en fait on va avoir une image, un instantané du jeu. Exactement à l'endroit où on a pris la save state, on va avoir un instantané du jeu. Et quand on va le restaurer, on va donc retrouver le jeu exactement dans le même état. À condition évidemment de charger la bonne ROM au départ. Il se trouve qu'il y a une petite particularité d'un très bon émulateur N64 qui s'appelle Project 64, qui est probablement le meilleur émulateur N64, Project 64 vous autorise à charger des save states même si vous n'avez pas la bonne ROM, ce qui n'est pas toujours le cas. Et alors la plupart du temps quand on fait ça, c'est-à-dire on charge la ROM de, je sais pas, Yoshi's Island, enfin de, pardon, Yoshi's Story sur N64, et on charge une save state d'un autre jeu. C'est parti. La plupart du temps, le jeu plante parce que ben voilà, l'état de la RAM et l'état du processeur est dans un état qui, auquel il s'attend pas du tout. Jeu. Ça correspond pas au jeu et ça se banane. Sauf pour Super Mario 64 qui, pour une raison que j'ignore, fonctionne avec énormément de save states, même des save states d'autres jeux. Simplement, le résultat obtenu est juste complètement barré. Tu prends la ROM de Super Mario 64, tu la charges dans Project 64, tu charges une save state de n'importe quoi, l'écran titre de Donkey Kong 64, l'écran titre de Rock Squadron, des choses comme ça, et t'obtiens des résultats, mais complètement barrés. J'ai réussi à avoir Mario qui a pas de bras, Mario qui a pas de tête, Mario qui peut que nager, Mario qui, quand il ramasse des pieds, perd de la vie, quand il est touché par un ennemi, gagne de la vie.
Ouais, ça peut être bien ça.
Mario qui, quand il ramasse une étoile, se transforme en Peach puis explose. J'ai pas trop compris la logique du truc. Voilà, donc on peut faire. Je sais pas pourquoi, voilà, ça marche avec Super Mario 64, ça marche avec très peu d'autres jeux. Et donc on peut faire des petites expériences rigolotes comme ça en allant charger des save states qui n'ont rien à voir. Pardon ?
Ça doit être l'éclat.
Bah ouais, on peut faire un peu n'importe quoi en fait sur Super Mario 64. Et alors de ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu dans différents forums, en fait, quand tu allumes Super Mario 64, il va initier dans la RAM tout un tas de valeurs qui correspondent en fait à la physique du jeu, donc la gravité est gérée à cet endroit là les points de vie qu'enlèvent les ennemis, tout est géré à cet endroit, donc ça se charge en fait au moment où la cartouche est chargée, et à partir de ce moment là le programme n'y touche plus jamais, il va juste aller lire les valeurs. Donc en fait quand on charge différentes save states, ça met des valeurs qui sont un peu n'importe quoi, et donc tu peux retrouver avec Mario super lourd qui peut pas sauter, ou Mario qui s'envole parce que la gravité est à zéro. Voilà, donc c'est rigolo, c'est une expérience à faire. Si vous avez une après-midi à perdre, vous pouvez vous amuser à faire ça. C'est assez marrant. Je vous conseille de compléter ça par les différents hacks qui existent de Super Mario 64. Il y en a qui sont vraiment fandards. Il y en a un qui permet de jouer avec Peach, il y en a un qui permet de jouer avec Yoshi, il y en a un qui permet de respirer sous l'eau sans aucun problème, il y en a un qui permet de jouer comme étant la... Tu sais, l'espèce de comment ça s'appelle ? Ah, j'ai perdu le nom. L'anguille dans la vallée, je sais plus quoi, là, t'as une espèce d'anguille sous l'eau, bah tu peux jouer l'anguille en fait.
Il est assez grosse là.
Voilà, ça sert à rien, ouais. Mais tu peux le faire.
Ouais, d'accord.
Donc voilà, il y a des hacks très très drôles à essayer de Super Mario 64, mais voilà, le truc le plus marrant, c'est charger une save state de n'importe quoi et voir ce que ça donne dans Super Mario 64. C'est un des rares jeux qui ne plante pas systématiquement.
D'accord. On sait s'il y en a d'autres ?
Ah bah j'ai pas essayé autre chose, mais enfin si j'avais essayé, j'ai essayé Operation Wingback en chargeant une save state de Donkey Kong 64, et le jeu plante au bout de genre t'as 10 secondes de c'est n'importe quoi et ça freeze ouais. En faisant un bruit horrible. Alors, j'en ai essayé quelques-unes comme ça, Super Mario 64 c'est le seul qui arrive à peu près à tenir, je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris, enfin je comprends pas pourquoi.
C'est parce que c'est un précurseur.
Je me demande si c'est pas parce que c'est un des premiers jeux sortis sur la machine et du coup les développeurs ils utilisent finalement une très petite portion de la RAM et globalement du coup à peu près n'importe quel état du machin ça fonctionne à peu près. Enfin bon voilà, je suis pas certain de mon coup, mais c'est la seule explication plausible en tout cas que j'ai trouvé. Bref, nous allons terminer ce tour de table un petit peu court de l'actualité. Et on va se mettre, comme vous avez pu le constater...
Un morceau de barbe dans les oreilles.
Voilà, on va mettre de la barbe dans nos oreilles. C'est un peu dégoûtant. Mais vous avez déjà eu de la barbe dans vos oreilles, puisque vous avez eu notre superbe générique de début signé Smooth McGrove. C'est très simple, on l'a appelé vendredi dernier, on lui a dit « Écoute, faut que tu nous refasses le générique du Dojo Bar. » Le terme de Corneria dans Star Fox, là, allez, vas-y, tu nous le fais. Et ben, il nous l'a fait, exprès pour nous. Et quand je lui ai demandé, là, tout à l'heure, je lui ai dit, bah écoute, ce serait bien qu'on ait un petit remix de Mario Kart 64, pour fêter la sortie de Mario Kart Wii. Il a fait, ok, je vous fais la Rainbow Road. Là, comme ça, cash. C'est parti. Donc, on s'écoute le remix de la Rainbow Road de Mario Kart 64 par le barbu qui chante.
Oui.
Vive le barbu.
Vive le barbu. Oui.
Et nous voilà de retour. Et donc, je vais laisser la parole à Méduse qui va nous parler des quelques petites actus intéressantes avant l'E3. Oui. Il y a plein de choses, donc on va essayer de discuter d'à peu près tout ça.
N'est pas spécifique à l'E3 d'ailleurs, mais c'est des petites actus qui sont passées longtemps, sur lesquelles on va passer pendant 12 000 ans, et qui méritaient peut-être qu'on en parle 2 minutes chacune, quoi.
Ouais, voilà, on va faire une espèce de tour étendu de l'actualité, parce qu'effectivement, voilà. on a quelques petits trucs qui méritent pas un débat complet, mais qui méritent au moins d'être évoqués.
Et tout le monde peut compléter ou bien réagir via Twitter en utilisant le hashtag Dojobar, ou comme on veut. Voilà. Le premier truc, c'était la mort de la connexion Wi-Fi Nintendo pour la Wii et la DS il y a pile une semaine. Et donc, mortellement, on a essayé d'y rejouer une dernière fois.
Essayer tant bien que mal.
Ouais. Pourquoi essayer ? Parce que Mortal, tu pourras peut-être nous expliquer pourquoi ça marche ou ça marche pas.
Je sais pas du tout parce que j'ai toujours pas trop d'explications. Mais moi, je pense que je me suis fait kickban.
Voilà.
Alors que ce soit sur Wii ou sur Wii U, il y avait absolument pas moyen que j'arrive à jouer en ligne. À chaque fois, je me prenais une erreur 38 400. Et, ouais. Ce que j'ai pas compris. Apparemment, il y a d'autres gens sur Reddit, j'ai lu dans le thread de Wii, il y a d'autres gens sur Reddit qui se sont pris ce genre d'erreur un peu avant l'extinction officielle qui était le 20 mai. Apparemment, des gens chez qui ça marchait très bien, donc je me suis posé la question de savoir s'ils n'avaient pas commencé à éteindre des trucs ou à commencer à dropper des trucs un peu avant.
Comme des handicapés, on a attendu la dernière minute, nous, pour tenter de s'y remettre, et donc, effectivement, c'était un petit peu scabreux. Donc on a pu jouer chacun de notre côté des parties de Mario Kart contre d'autres gens, mais ensemble.
Ouais, j'ai dû jouer un truc contre un Suisse, genre. Ce qui était pas voilà. J'ai dû jouer 30 secondes à Mario Kart et c'est tout. Ce qui me rend très triste, c'est qu'on n'a pas pu se faire un dernier Battalion Wars 2.
Oui.
Et franchement, ça me gonfle parce qu'il n'y a pas de multi local.
C'était le mieux quand même, hein, celui-là. Il était vraiment bien.
Il était vraiment bien. Ouais. J'avais un très très bon souvenir du multi. On avait dû passer une petite après-midi dessus il y a quelques années maintenant pour rigoler.
Ouais. Et le truc, c'est que c'est vraiment, enfin, le truc particulier, c'est que c'est le seul jeu coop de Nintendo en ligne. Il y en a juste pas d'autres, je crois. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il soit plus dispo. Et alors, à l'avenir, on espère évidemment tous qu'il puisse y avoir des gens qui réussissent à remonter le code des serveurs ou on sait pas comment.
Il y avait ça sur GameCube.
Le Warpipe qui te permettait de faire croire que t'étais en LAN alors que t'étais en ligne. Je crois pas que ce soit juste faire croire que t'es en ligne, c'est carrément faire croire que la Nintendo Wi-Fi Connection est vivante, tu vois. C'est peut-être un petit peu plus.
Voilà, maintenant faut voir que la scène hack sur Wii, elle est quand même super développée.
À mon avis, ça va se faire.
Je pense que ça finira par se faire parce qu'il y a quand même plein de gens qui souhaitent pouvoir continuer à jouer à Mario Kart Wii, par exemple, hein, tout bêtement.
Ouais,
alors après, quelle forme exacte ça va prendre ? Un service en ligne, un serveur hébergé soi-même, une déroquée qui permette de jouer sur des serveurs privés ? On peut tout imaginer, mais je pense qu'il y a quand même un petit espoir pour que ça reprenne.
Mais oui. Voilà, c'était juste pour évoquer ça, pour qu'on s'en souvienne. Pour la
même juste pour le défi, tu vois. Il y a tout le temps un mec qui va réussir, ouais, pour dire, voilà, t'as vu, j'ai réussi.
Ouais. C'est ça qui est bon.
Même si ça sert à rien, voilà. Ou peut-être même avec l'émulateur Dolphin, il y aura peut-être moyen directement, ils vont l'intégrer, puis tout. Ouais.
Ce serait super génial, ça. On kifferait tous, je crois.
Ouais, mais à mon avis, ça va être ça.
On pourrait jouer en 1080p au jeu Wii, et en ligne, ce serait fandard quand même. Alors, petit sujet suivant, on a récemment, un peu tout le monde, je crois, entendu parler de Nintendo sous l'angle du sexisme, avec Tomodachi Collection qui ne permet pas le mariage gay, ni le mariage zoophile, ni le mariage entre les arbres, ni tout ce qu'on veut. Et une parenthèse sur ce sujet, ceux qui écoutent le Dojobar depuis assez longtemps se souviendront que quelque part je me demande si c'était avant l'été 2013 carrément, on avait parlé du jeu parce que justement au Japon c'était l'inverse. Japon, pays un petit peu conservateur, où là on avait vu une photo de Tomodachi Collection de Tomodachi Collection, une photo avec justement deux personnages mal qui aurait réussi. Ça aurait été un bug à l'époque, ça a été présenté.
Ouais, comme ça. Ça fait voilà. Un pseudo-scandale à l'époque.
Ouais, et figure-toi qu'on en avait parlé sur cet angle-là, en se disant que finalement, nous, on s'en va un petit peu. Enfin, moi, à titre personnel, je m'en bats un peu la race qu'il y ait des relations homosexuelles dans un jeu vidéo ou pas. Mais en fait, on a tous cru que c'était le cas, mais c'était pas le cas du tout. Pardon. C'était pas le cas. Qu'est-ce qui fait du bruit? C'est Frosty qui fait du bruit là derrière. Ok, d'accord. Mais c'était pas le cas du tout. En fait, il n'y a jamais eu dans la version japonaise, il n'y a jamais eu de relation homosexuelle dans
C'était juste un montage, en fait.
Non, il y avait bien un couple homme-femme dans le jeu, sauf que la femme est habillée en homme, et du coup, tout le monde a cru que c'était une représentation de deux hommes. Tu vois?
Ouais, je vois le truc, d'accord. Donc en fait, c'était une espèce de... une confusion, on va dire, par rapport à ça.
Ouais, voilà, parce que
mais je me rappelle qu'effectivement ça avait fait un petit scandale au Japon ouais. Japon, parce que pays très conservateur, voilà. Pays qui refuse, qui est très 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 dur vis-à-vis de l'homosexualité, comme
oui,
beaucoup de pays asiatiques,
marginalité en fait sociale ou autre. Et inversement, bah, on a le cas ici où je sais pas si c'est parti d'Europe ou des États-Unis, mais où il y a une frange de personnes qui se disent « Oh, Tomogatachi Collection, ça a l'air complètement con, mais si je peux pas me marier ou fréquenter un personnage qui correspond à mes envies
Tes orientations sexuelles.
Voilà, exactement, superbe. Mes orientations sexuelles, ben, c'est pas cool. » Et voilà, je voulais savoir un peu ce que vous en pensez rapidement, parce qu'on dédiera certainement un gros sujet dans une prochaine émission à ça.
Moi, j'en ai strictement rien à battre.
On s'en doute. Toi, tu fais déjà tout avec ton chat, alors forcément.
Non, mais c'est pas parce que t'es gay, dans la vraie vie, qu'il faut forcément que tu sois pareil. C'est débile, quoi. Moi, quand je jouais aux Sims, je faisais bien des homos, des machins, je m'en foutais, quoi. C'est un jeu vidéo. T'es pas obligé de faire exactement la même vie que ce que tu vis en vrai, quoi. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Après, c'est vrai que c'est un oubli. Enfin, je pense que c'est un gros oubli, quand même, quoi.
Alors après, je c'est vrai que c'est par rapport au... Les Sims ont un peu été précurseurs sur le sujet, parce que justement, c'est un des premiers jeux vraiment très populaires dans lequel les unions homosexuelles étaient possibles.
Ouais, mais on pouvait rien faire avec les enfants, c'était dommage quand
même. Voilà. Mais oui,
tu vois,
en Belgique, c'est capital. Si tu peux rien faire avec des enfants d'un jeu vidéo, ils se vendent pas, quoi.
Voilà. tant qu'à le faire, autant bien le faire, tu vois.
Vous êtes ignoble. Vous me rappelez les heures sombres de certaines manifestations parisiennes dans lesquelles il y avait quand même une belle tripotée de connards.
Ouais, le seul truc sombre que ça me rappelle, c'est dans l'air. Hein. Oh, c'était facile.
C'était facile. Non, mais c'est vrai que je comprends que Nintendo le fasse pas. C'est vrai que les personnages... On en reparlera plus longuement, donc j'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet, mais il y a des choses très très bizarres, parce que c'est vrai qu'il y a des personnages dans des jeux Nintendo qui ont été censurés, notamment en passant du Japon à l'Occident.
Dans Fire Emblem Awakening, je crois.
Par exemple, il y en a eu d'autres comme ça, où alors c'était soit effectivement des travestis, des transsexuels, des personnages comme ça qui ont été systématiquement modifiés. Donc c'est marrant que ce genre de choses-là ne choque pas au Japon, mais que l'homosexualité choque.
Ou des persos fort sexualisés.
Ou des persos très sexualisés qui ont été désexualisés en arrivant en Occident.
Mais je crois que Tingle, c'était pas un emblème gay ou un truc comme ça.
Il y a eu ce genre de choses-là, mais c'est vrai qu'il y a des choses très bizarres. C'est-à-dire que t'as des choses qui sont tolérées et même qui font vraiment partie de la culture japonaise. Je me rappelle d'un jeu sur Wii qui était Muscle Man, un truc comme ça.
C'est trop bien ça.
Le truc avec les gros costauds qui courent là, qui était vraiment un truc complètement.
Un truc sur Weaver, je crois.
C'est un truc sur Weaver qui était complètement décalé et qui faisait, bon, je vais pas dire l'apologie de l'homosexualité, mais enfin qui était quand même très très homoérotique.
T'as quand même des mecs en slip qui couraient avec des arcs en slip derrière.
T'as quand même des mecs en slip bien avec le corps bien huilé qui se couraient les uns derrière les autres. Enfin, c'était quand même complètement barré. Et c'est vrai qu'en Occident, tout le monde voit l'allusion homosexuelle, alors qu'au Japon, enfin, je sais pas, ce genre de truc-là passe. Le mariage homosexuel dans un Tomodachi Collection ne passe pas. Je trouve ça un peu curieux, ce décalage. Mais voilà, on en reparlera plus longuement dans une émission, donc on va pas s'étaler.
Au Japon, en fait, il y a pas vraiment de condamnation pour du sexe avec des enfants, en fait. Ça a apparu très tard au Japon, genre dans les années 90, un truc du genre, je crois. Et du coup, ça, enfin, voilà, ça expliquerait une déviance ou une ou un changement de mœurs par rapport à chez nous. Moi, je voulais juste revenir sur un détail par rapport à ça. Pardon. Ah là là,
il est rouillé.
Vous avez déjà, est-ce que vous êtes déjà servi de la fonctionnalité recommander un jeu sur l'eShop?
Ouais.
Oui, moi, je m'en suis servi pour 2-3 jeux.
Quasiment tous. Moi,
est-ce que vous avez souvenir de ce qu'on vous demande?
Bah, c'est le sexe. Après, t'as genre
l'âge.
Non, même pas. Je crois que c'est
t'as
juste
la tranche
genre,
d'âge. T'as la tranche d'âge, joueur, le sexe.
Gros joueur ou occasionnel.
Gros joueur occasionnel.
Ouais, gros joueur occasionnel. On vous demande si le jeu conviendrait plutôt à un homme ou à une femme.
Bah
ouais. Je trouvais ça complètement débile dans le sens où je sais pas moi, je vois pas pourquoi je sais pas n'importe quel jeu conviendrait mieux à un homme qu'à une femme quoi. Pour moi le sexisme chez Nintendo il a commencé là. C'est le premier truc que j'ai remarqué depuis combien d'années.
Un jeu Barbie par exemple forcément c'est plus pour les petites filles tu vois.
Ouais mais
par de ce principe là en fait.
Est-ce que t'as déjà recommandé un jeu ou la réponse à la question est-ce que c'est plutôt un jeu pour les mecs
oui,
ou
oui,
les nanas
ou t'as plus, genre ouais. un Zelda par exemple ouais c'est pour tout le monde quoi enfin
ouais ou Mario ou un Mario ou
bah tous les jeux de toute façon
ça dépend c'est vrai que mon petit poney au pays du bonheur bon c'est quand même un jeu qui est marketé pour les filles
bah ouais
c'est
voilà.
Les petites pour filles les teubés, quoi.
Alors les petites filles elles sont pas si idiotes que ça en réalité non, oui, et elles se rendent bien compte que c'est quand même de la merde et globalement je peux pas leur recommander quoi qu'il arrive moi éventuellement je peux recommander ça aux Neptuniens et encore parce que je suis pas sûr que ça va leur plaire. Mais c'est le maximum quoi, il y a que les martiens qui peuvent apprécier des trucs comme ça ou je sais pas ou les politiques, les hommes politiques, ça, éventuellement ils peuvent apprécier ça. Mais non mais voilà, tu peux pas. Donc effectivement, je trouve que c'est un petit peu débile comme truc mais on en reparlera plus longuement, c'est vrai que c'est un truc qui m'était jamais venu à l'esprit mais
par contre, ils ont dit enfin quand même Nintendo a dit que dans Tomodachi Life 2, enfin ça va être le 3 non chez nous, enfin non, je crois que c'est le 1 ici. Donc en fait le 3 normalement on pourra se marier et faire des bébés
Je suis pas sûr qu'ils aient dit ça, je crois qu'ils ont juste dit qu'ils allaient considérer la chose mais après,
ouais mais considérer la chose si ça fait un gros carton je pense qu'ils vont l'intégrer. C'est un oubli idiot parce que c'est ils auraient dû y penser.
On en reparlera, moi je trouve pas que c'est un oubli, je trouve que c'est juste ils sont créateurs de jeux vidéo, ils définissent une lignée. Est-ce qu'on se plaint que dans Super Mario, il n'y ait pas de personnage black ou pas de personnage vieux ou pas de
non, vois, on s'en branle ça.
On sent pas la race. Quoi.
Tu regardes dans les Sims, tu peux très bien faire des couples, des couplements.
C'est une question de choix d'auteur, je pense.
C'est un simulateur de vie, donc c'est vrai que c'est représenter ce genre de choses, c'est pas forcément idiot.
Ouais.
De vie bien barrée.
Allez, on passe à la suivante parce que sinon on va faire tout le débat maintenant, ce serait un peu dommage.
Sujet suivant, il est. Je propose qu'on. Je vais vous citer 4 jeux 3DS qui doivent sortir d'ici à début 2015, on va dire. Il y a Smash Bros. Qui sort cet été. Mm-hmm. Les deux remakes Pokémon qui sortent à la fin de l'année. Bravely Default 2, ce sera certainement pour 2015. Et Shin Megami Tensei 4, dont on a annoncé la traduction française récemment, dans l'interview du Figaro de Stéphane Boll. Voilà, 4 jeux 3DS. À part ça, est-ce que vous voyez d'autres gros jeux 3DS qui vont arriver dans les 12 mois à venir?
Il y aura A Link Between Worlds 2, j'en suis sûr.
Non, je vois pas vraiment non plus.
Parce que finalement, on se plaint beaucoup de la Wii U qui a pas de jeu, machin, mais la 3DS.
La 3DS a déjà énormément de jeux déjà. Enfin, moi, la plupart de ce que j'ai, en fait, je les ai même pas terminés. J'ai terminé même pas la moitié. Alors que là, sur Wii U, quand même, ça fait presque deux. Enfin, ça fait un an et demi que la console elle est sortie. T'as 10 jeux quoi.
Moi, la plupart des jeux que j'ai sur Wii U, je les ai pas finis non plus.
Voilà.
Mais effectivement, il y a, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Enfin, je sais pas s'il faut s'en inquiéter ou pas, parce que il y a Smash Bros. Il y a effectivement les Pokémon et Bravely Default 2, mais c'est vrai qu'il y a pas d'autres très grosses sorties d'annoncées. Maintenant, ça fait quand même quelques années que Nintendo nous a habitués à sortir de son chapeau un Wario Land, un je sais pas quoi, un machin, et qui sort 6 semaines après, quoi.
Ouais, il peut très bien faire un Advance War, hop, c'est bon, go. C'était, ah oui. C'était Fire Emblem qui est.
Fire Emblem, ouais. Il a été annoncé 8 semaines avant sa sortie, un truc comme voilà, ça, c'était complètement craqué. Hein.
Mais ils savent que ça se vend de toute façon, ils savent très bien. Il peut très bien y avoir un Dragon Quest, une connerie aussi de chez Square Enix, des trucs. Ouais.
C'est surtout qu'il y a eu beaucoup de sorties ces derniers temps, qu'on a peut-être été habitué à un rythme assez soutenu aussi.
L'orgie.
Voilà, le rythme est très soutenu, très soutenu.
Ouais. Alors, ça se calme un peu, mais bon.
Et c'est vrai que par contre, ils ont sorti toutes leurs licences, par contre. C'est vrai que, enfin, pas toutes, mais une grosse partie.
Il manque un remake de F-Zero GX sur 3DS.
Ouais, mais ça se trouve, ils vont peut-être sortir un F-Zero.
Ou de Majora's Mask. Allez, celui que tout le monde attend.
Mais il me semble que c'est Reggie Fils-Aimé ou Satoru Iwata, un des deux, qui avait dit que de toute façon, aujourd'hui, un développeur qui se met sur 3DS, même s'il fait une bouse ignoble, il est sûr de la rentabiliser parce qu'en réalité, il y a tellement de consoles.
C'est
que...
ça. Donc, c'est la présentation de fin janvier. Il a dit que voilà, il y a 40 millions de 3DS. Maintenant, si tu fais un jeu, c'est dur de pas être un minimum rentable.
Même un jeu où t'as juste l'écran titre, t'arrives à le rentabiliser.
Voilà. Allez, petite question. Ouais, je propose qu'on fasse la petite interlude de Mario Kart Direct 8.
Ouais.
En se demandant, Mortal va passer un extrait du direct de Mario Kart 8. Et il faut essayer, cher auditeur, posez-vous la question juste une seconde, à quelle personnalité connue cette voix vous fait penser.
Observez les objets, tout simplement inouïs.
C'est vite. Franchement, n'est-ce pas Stéphane Bern?
Mais c'est Stéphane Bern.
Imagine, tu entends cet extrait, tu vois la tête de Stéphane Bern avec le sourire tendeur ultra élastique, je trouve ça mythique.
Oui, et n'oubliez pas d'envoyer une carapace bleue dans les dents du premier.
Exactement.
C'est vrai que c'est quand même. Les jeux de ce Mario Kart Direct étaient juste, mais complètement hallucinantes, quoi.
Mais oui, c'est vraiment. C'est
je sais pas ce qu'ils ont des fois chez Nintendo France, des fois ils se craquent quand même.
Mais si ça se trouve, j'ai embauché Stéphane Bern, t'en sais rien, mais il a peut-être un contrat à vie chez Nintendo, et d'ailleurs c'est lui la prochaine voix de Mario. Il se fout, Mario!
Ah, ce serait trop bon.
Ça va être trop bon.
Bienvenue dans le château de Peach, construit en 1980.
Ouais, c'est ça. Le château de Consoles et ses ruines ont abrité beaucoup de brigands.
Mario Kart 64, sorti en 1995, une vraie révolution à l'époque.
Oh, c'est excellent.
Non, mais franchement, je pense qu'un jour, il faudra faudra qu'au dojo, on fasse une émission rétro, mais dans laquelle on parle avec la voix de Stéphane Bern. Je pense qu'il y a quand même un truc à creuser. Il y a un concept qui n'a pas été exploré encore.
On ne tiendra pas un quart d'heure. Allez, petit truc léger suivant. NES Remix 2 qui est sorti le 25 avril. On a vu il n'y a pas longtemps sur le Miiverse un petit message du créateur, vu que sur le Miiverse il y a les directeurs de jeu, etc., qui sont un petit peu actifs parfois, qui nous disait voilà, je vous mets un screenshot. Là-dedans, il y a un code pour le jeu qui est caché. Il faut essayer de le deviner. Donc, c'était la petite énigme des derniers jours sur le Miiverse. Et il y avait un message en rouge après le générique qui indiquait Star Test Clear en rouge. Voilà. Et il y a des gens qui ont réussi à trouver en fait à quoi ça correspondait. Et il se trouve que c'est un anagramme. Et c'est l'anagramme de Start Select AR, qui est donc un code dans NES Remix 2 qui permet de débloquer toute une série de machins.
Voilà, c'est cool. D'accord. C'est ça comme truc.
Ouais, c'est assez marrant, je trouve ça sympa qu'ils aient planqué ça, dedans. Donc Start Test Clear, ça donne Start Select AR. À faire, je crois, à l'écran de générique, et ensuite de débloquer la douzaine de jeux qu'elle a derrière. Voilà, je trouvais ça cool.
Ah, plutôt bien.
Alors, je sais pas, NES Remix, il y a quelqu'un qui l'a ici ou...
Ouais, moi j'ai le 1.
T'as le 1
T'as pas NES Remix, j'ai pas le 2, ouais.
Moi j'espérais qu'il fasse un pack avec les deux... promotionnel, mais finalement, même si on les prend à part, ça reste moins cher que la version boîte vendue au Japon.
Ouais, c'est hyper hardcore hein, quand même, hein, comme jeu. C'est pas si évident que ça, et en plus, la maniabilité elle est un peu space, et du coup, j'ai pas trop approché.
C'est des jeunesses, hein, donc.
Ouais, mais non, en fait, par exemple, pour le Mario, t'as pas la même. La même pesanteur, quoi.
T'as pas la même inertie, la même pesanteur.
C'est curieux, pas le même truc. Et du coup, j'ai vachement de mal. Alors après, peut-être que pour ceux qui ont pas trop joué au jeu sur NES ou de l'époque, en tout cas, ça le fait, quoi.
Moi, j'aime bien le concept, en tout cas.
Dès que t'as tes habitudes, c'est mort, quoi. Ouais, par contre, le concept est cool.
D'avoir des défis à chaque fois tirés de différents jeux, de différents univers comme ça, je trouve ça, c'est fun, quoi.
Alors, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Je me permets de donner un tout petit peu mon avis. J'ai joué au jeu, mais je l'ai pas acheté. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça fait un peu échantillon payant pour la console chiant. Virtuelle derrière. C'est un petit peu dommage quand même. Mmh. Parce que pour ce prix-là, tu as pour 10 euros, tu as un échantillon de 24 échantillons de.
Ouais, mais
jeux, quoi.
Après, est-ce que les jeunes sont suffisamment bien vieillis pour s'y pencher plus que ce qu'on s'y penche dans les remix?
Alors, ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Je pense qu'effectivement, il y a des trucs sur lesquels ça vaut pas le coup. Un Balloon Fight, par exemple, ça vaut quand même moyennement le coup. C'est un jeu qui est très très fun, certes. Mais
ils avaient fait un bon truc dans Nintendo Land, justement.
Ils avaient fait ils ont fait un très très bon remix.
Il était cool, ouais. Il était très bien.
Et dur.
Ouais, en plus, ouais.
C'est Nintendo Land, quoi. Voilà. petit truc sympa après. D'abord, je vais vous demander votre avis sur le. À l'E3, on sait déjà. Bon, il y a des choses qui sont certaines à l'E3, c'est que ça va parler de Smash Bros. Sur Wii U. C'est qu'on va avoir le Zelda de la Wii U qui va enfin être présenté. Qui avait eu une chance d'être présenté à l'E3 dernier, qui se sont dit finalement à la fin, on va le garder pour l'an prochain. Ça, on est certain de les voir. Et on est certain aussi d'avoir la présentation du NFC sur la Wii U. Le NFC, c'est quoi? C'est le petit lecteur qui est sur le gamepad qui permet de lire soit des cartes magnétiques. Les Japonais vont pouvoir payer leur transport via ces machins-là, mais qui vont aussi pouvoir lire des figurines. Il va y avoir des figurines bientôt dans vos rayons jeux vidéo qui vont être compatibles avec plusieurs jeux. Et on sait que donc le NFC va être présenté et qu'en plus, il sera compatible avec Smash Bros. Et là, c'est Kaliken qui va pouvoir nous éclairer.
C'est
faux. Explique-nous pourquoi. D'abord, pour rappeler le contexte, c'est le président de Nintendo France qui a dit que le NFC serait utilisé dans le Smash Bros. Sur Wii. Voilà.
Oui. Et en fait, c'était fait par une journaliste du Figaro. Et je lui ai demandé, parce que pour avoir les infos un peu, pour relayer sa news sur Nintendo Man. Et du coup, en fait, je sais pas, 20 minutes après, elle est venue me revoir en me disant, en fait, il y a eu un petit problème, on s'est mal compris avec Stéphane Boll, c'est pas annoncé du tout, en fait, qu'il va y avoir des figurines NFC pour Smash Bros. C'est Nintendo France, en fait, qui l'a rappelé en disant, t'enlèves ça parce que c'est pas vrai, en fait.
Vrai, il veut faire le genre c'est pas vrai, il a pas fait
donc,
le tour.
C'est possible, c'est très probable que ce soit vrai et qu'il s'est vendu. Au fur et à mesure de la conversation, on voit paf, il s'est vendu. Mais c'est pareil, il avait sorti que Smash Bros. Sur 3DS sortait en octobre, alors qu'il a été, il est officialisé pour l'été.
Ouais.
Donc,
mais en même temps, pour le NFC, s'ils veulent l'imposer sur Wii U ou le lancer, Smash Bros. C'est peut-être le jeu idéal pour ça aussi. Non.
Pour moi, c'est un Pokémon.
Alors, je suis désolé, l'application idéale pour lancer le NFC, c'est le lecteur de carte bleue directement intégré dans le gamepad.
Ah bah oui, là.
Tu poses ta carte bleue sur le gamepad, ça crédite ton compte Nintendo. Là, Nintendo prend une longueur d'avance sur la concurrence, qui est juste monstrueuse.
Ah oui, complètement.
Ils vont le faire. Au Japon, justement, ils ont un partenariat, là. Tu poses ta carte, tu peux mettre des thunes dessus.
Ils l'ont pas encore fait, ils vont le faire, je crois. Et Iwata dit clairement dans ses présentations que, il le faisait d'abord pour les transports, pour voir comment ça marche au Japon. Ouais. Et vu que les gens sont pas très au Japon, je sais pas exactement, faut aller lire le machin que j'avais traduit, le Iwata présente. Hein. Ouais. Il a dit qu'en gros, vu le contexte dans lequel c'était fait au Japon, si ça passait au Japon, ailleurs ça pouvait passer et qu'après ça s'étendrait ailleurs. Donc ça c'est clair. Mais après, Iwata, c'est pas juste faire en sorte que Nintendo, que les gens puissent utiliser leur carte sur le NFC. Lui, il veut vendre des figurines derrière.
Ouais, non, mais c'est...
Donc c'est important.
Mais tu as raison,
de lancer
du Pokémon. Tu mets du Pokémon ou même un Smash Bros. C'est tu vois une figurine de Mario ou une figurine de Link ou de Zelda, de machin, Donkey Kong ou autre truc. De toute façon, tu auras forcément.
Ou du Zizi Tsirar.
Il faudra de la place quand même dans le magasin.
Le problème, c'est que ça va être tendu pour remplir les rayons. Ça va être remplir les rayons, quoi, mais à lui tout seul.
Un truc comme ça, t'es sûr et certain que les gens vont acheter des figurines. Parce que par exemple, pour Skylanders, ça parle à personne, quoi, à part aux gamins. Les mecs de 30 ans, ils s'en branlent, quoi. Alors que tu mets une belle figurine de Ganondorf ou un truc comme ça, le mec il va l'acheter juste pour avoir la figurine, même s'il s'en servira jamais, quoi.
D'autant plus que Smash Bros, ils avaient un peu commencé à faire des collections de figurines, dans le jeu lui-même.
Quoi. Ouais, les trophées.
Peut-être qu'ils vont remettre ça en vrai, ce serait pas mal.
Après, le truc de...
Ou même
le
dans
truc,
Zelda Wind Waker.
Ça pourrait être des super DLC. Enfin, c'est depuis le début de la Wii U, c'est ce que je dis. Ils devraient foutre des DLC, genre des, je sais pas, une édition collector, t'as la figurine et dedans t'as du NFC quoi, et là paf, t'as ton DLC dedans. Au moins ta figurine elle sert vraiment à quelque chose.
Ouais, enfin la clé du DLC, parce que tu peux pas stocker grand chose sur.
Non, juste la clé, c'est juste un truc qui débloque, c'est pas. C'est vrai que c'est méga là-dessus.
L'idée est pas idiote du tout, parce que tu t'achètes Mario Kart 8 avec le pack spécial avec la fameuse carapace bleue en plastique géante. Et la carapace bleue débloque je sais pas quoi dans le jeu avec le NFC. C'est vrai que c'est une interaction c'est pas fondamentalement intéressant, mais globalement c'est quand même original par rapport à la concurrence. Et puis effectivement l'objet te sert à quelque chose.
Surtout ce qu'ils veulent faire, et là Nintendo aussi a une petite longueur d'avance et qu'il faudrait vraiment qu'ils la gardent et qu'ils s'en servent bien, c'est qu'apparemment leurs figurines, tu peux les utiliser donc sur Wii U, mais aussi sur DS, aussi sur 3DS, et surtout dans plusieurs jeux Wii U. C'est-à-dire que si t'achètes
plusieurs jeux Wii U, c'est certain, mais surtout pas la 3DS.
Non, mais c'est pas comme un vrai DLC. Un DLC, tu l'utilises et basta, tu peux plus l'utiliser autre part. Alors que là, ta figurine, tu peux l'utiliser dans plein de jeux, tu peux aller chez tes potes, tu peux l'utiliser, tu peux la revendre, tu peux faire ce que tu veux. Et après, dans les cours d'école, un Pokémon, ça va cartonner.
Après, on verra après présentation, et on en reparlera certainement, parce que ça risque d'être un gros sujet, mais tu dis que Nintendo a une longueur d'avance, mais peut-être aussi que ça va peut-être pas nous arranger, nous, en tant que joueurs, de devoir acheter une figurine, voir du contenu du jeu. Quoi.
C'est comme un DLC, c'est pareil. On te vend bien
des... Si j'achète un DLC, je suis déjà pas trop client, mais bon, ça m'arrive parfois. Quand j'achète un DLC, ben, je paye, j'ai mon DLC. Là, j'ai pas envie d'avoir un objet en plus encombrant chez moi pour lequel j'ai à peu près rien à foutre. Qui m'apporte, tu vois. Donc, faudra voir ça aussi.
On passe au
dernier petit sujet. La CPC Box, ça évoque quelque chose à quelqu'un?
Oui.
On l'a tous vu passer, c'est la box de Canard PC. Box de Canard PC, le mini PC de Canard PC.
Excellent magazine au passage.
Excellent magazine, exactement. Ça fait suite en fait, c'est tout simplement un mini PC, mais qui est plus petit qu'une PlayStation ou plus petit qu'une Xbox One. Mais sauf que c'est puissant comme un PC. Et donc là, la miniaturisation fait que c'est aussi puissant qu'une One ou une PS4. En fait, ce qui s'est passé, grosso modo, la démarche du mec, c'est Doc Terabool qui s'appelle le mec spécialisé hardware chez Canard PC. Sa démarche, c'était de dire, Microsoft et Sony se sont bien foutus de la gueule des gens avec des Xbox One et PS4 qui, en termes de puissance, correspondent à peu près à des standards qu'on a sur PC depuis 2012. Et de dire, ils ont proposé des grosses machines, moi je vais essayer de faire un prototype avec mes petites mains, etc. En 5 semaines, il a fait quelques prototypes pour en gros démontrer qu'on pouvait avoir la même puissance avec un PC sans dépenser des sommes mirobolantes. Et donc c'est cool, ça marche et c'est très bien. Et je crois qu'il est en recherche de possibilités de commercialiser l'engin à des tarifs modestes. Donc, une fois qu'il aura produit au-dessus des 1000 exemplaires, je pense qu'il peut tabler sur des prix. Je crois qu'il avait dit ça dans une interview, sur des prix sous les 600 euros, ce qui serait comme une grosse bite à Microsoft et à Sony, puisque ça ferait la même chose niveau puissance et ça ferait surtout un PC derrière.
C'est la même chose niveau puissance, mais il faut quand même rajouter. Alors déjà, il faut voir le public qu'il va y avoir derrière. Alors c'est vrai qu'avec le Steam Big Picture, il y a quand même potentiellement des candidats.
Ça marche super bien. Ouais. Le Steam Big Picture, en termes d'interface et de menu, ça marche super bien.
Maintenant, faut voir qu'il y a quand même va y avoir l'OS à rajouter derrière. Parce que l'OS il est inclus quand t'achètes ta console et il va y avoir aussi sur console alors c'est de moins en moins vrai on va dire, mais sur console tu as l'avantage du matériel fixe. Là je sais pas si le matériel va être fixe. Le gros problème sur PC, si on ne peut pas optimiser autant que sur console, c'est justement parce que le matériel est pas fixe. Donc en gros sur le papier effectivement c'est aussi puissant. Maintenant dans la pratique, je sais pas à quel point on peut considérer que ce sera similaire ou
moi je m'adhérerais un petit peu à ce que tu viens de dire par deux choses. C'est que la première, c'est actuellement on a des architectures. Enfin sur la PS4 et la One, c'est la première fois qu'on a des architectures de consoles classiques qui sont des architectures PC à 100%. Là,
c'est le cas de la Xbox.
Ouais, mais là, avec la One et la PS4,
non, mais voilà, la One et la PS4, clairement, c'est des PC. Clairement, c'est des PC. C'est des PC déguisés.
C'est des PC déguisés et au niveau carte graphique, ben c'est à peu près une Radeon 7850, plus ce que j'ai dans ma machine.
Et la deuxième chose, un truc à 50 balles quoi.
Ouais, voilà, à 125 euros, on va dire. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que tu prends par exemple Watch Dogs qui vient de sortir. Bizarrement, il compte bien mieux sur mon PC que sur une PS4 et une One, justement parce que Ubisoft n'a pas dû faire d'abord sa version console, puis optimiser la version PC pour des architectures totalement différentes. Alors que si tu prenais par exemple GTA 4 qui était sorti d'abord sur 360, puis sur PS3, et seulement à peu près un an et demi ou deux sur PC, par la suite, il te faut un PC brut pour faire ce qu'une merde de 360 ou PS3 fait, quoi. Tu vois, ouais. En termes d'optimisation. Alors que là, des trucs qui sont,
tout à fait.
Qui sont tellement proches que finalement, la One et la PS4, si elles ne se démarquent pas par leurs exclusivités ou par des trucs bien spécifiques, genre Sony qui a annoncé son casque de réalité virtuelle, elles se font juste bouffer par des PC qui ont 2 ans de l'âge.
Ouais. Mais c'est vrai que l'aspect aujourd'hui, des consoles de salon, c'était un peu le plug and play. C'est vrai que le plug and play, c'est de moins en moins vrai sur les consoles de salon, c'est de plus en plus vrai sur PC grâce à Steam notamment. Mais il y a aussi le machin d'IA Origins qui est alors Origins, moi j'étais pas du tout convaincu au départ, et en fait je le trouve à l'usage de plus en plus impressionnant.
Mais il est bien Origins maintenant.
Il est pas mal. Alors au départ c'était une vraie catastrophe, mais maintenant il est vraiment pas mal.
Moi ça me faisait rire là, justement, genre ouais, Origins c'est tout pourri, bah attends, rappelle-toi Steam il y a 10 ans quoi.
C'est exactement ça. Par contre la marge de progression d'Origins, elle a vraiment été énorme en très peu de temps. Mais donc c'est vrai que de plus en plus je vois des gens se dire à quoi ça sert d'avoir une Xbox One et une PS4, parce que finalement mon PC est capable de faire tourner à peu près le même truc, j'ai qu'à le brancher sur ma télé.
Exactement.
Et surtout avec une résolution de fou malade aussi, parce que Watch Dogs il tourne en 2560 par 1440 quoi sur PC.
Enfin ouais, c'est pas la résolution native.
Ouais,
non plus.
Si t'as l'écran et que t'as ce qu'il faut derrière,
mais
c'est bon.
Là, là où ce que Mortal est dit est complètement vrai, c'est que en tant que joueur, mon système de jeu ultime, ça a toujours été d'avoir une console Nintendo et un PC à côté. Et c'est vrai que de plus en plus, ça convainc beaucoup de gens. Quoi. Les gens se rendent compte que finalement, c'est le combo ultime. Ça l'était déjà à l'époque du GameCube, de la Wii. Et c'est encore plus vrai maintenant avec la Wii U.
Mmh.
Et finalement, ce genre d'alternative, les Steam Box qui vont arriver, ou ce que Steam fait pour porter le jeu PC, parce que c'est véritablement Steam qui a lancé tout dans le jeu PC.
Puis t'as le streaming aussi, le streaming
ouais,
de Steam.
Voilà, c'est juste des trucs hallucinants qui fonctionnent super bien. C'est juste malade. Et tout ça font que finalement Sony et Microsoft, en restant dans leur classicisme, il y a forcément un moment, je pense, où ils vont le payer cher.
Et puis t'as le prix.
Ouais.
Le prix des jeux
sur PC. Alors, faut voir aussi que sur PC, tout est dématérialisé ou quasiment maintenant. C'est-à-dire que les éditions matérialisées sur PC, il y en a peu. Par contre, ça m'a bien fait rire. Effectivement, le Wolfenstein Order, que vous avez tous suivi parce que vous êtes des grands de Wolfenstein.
Ouais. Absolument.
Wolfenstein New Order, il est à 70 boules sur PS4, il est à 70 boules sur Xbox One, et l'édition collector PC matériel est à 45 euros. C'est-à-dire avec tout le truc. Là, je te parle pas de l'édition collector sur PS4 et sur One qui doit être à largement plus de 100 euros.
Là, je regarde aussi pour Watch Dogs, en fait, il y a 10 euros d'écart en fait entre la version physique PC, la version PS4 ou Xbox One. Il y a 10 euros. C'est 54 euros et 44.
Donc c'est vrai que c'est pas forcément... L'écart effectivement s'améliore de plus en plus, mais je me demande si on n'aurait pas intérêt un jour à faire un sujet là-dessus, parce que je pense qu'il y aurait vraiment des choses à dire.
Je l'avais déjà dit que ça me trottait dans la tête depuis longtemps d'expliquer comment on fait pour jouer moins cher sur PC que sur console.
T'as le Humble Bundle, les machins comme ça, déjà pour...
Ouais, mais même au niveau matos en fait. Les gens disent, jouer sur PC ça coûte cher. Bah oui, c'était en 2003 quoi, c'était vraiment...
Ouais, c'est plus cher avant.
Mais une explication à ce que les deux PC sont toujours moins chers.
Caliken fait tomber un paquet de pâtes chez lui, donc.
Ah bon ?
Écoute, on a entendu un bruit intense venant de chez toi.
Ouais, Caliken, il y a une explication qui est très simple. C'est la question inverse. C'est il y a une explication à ce que le jeu PS1 ou 360 ou PS3,
royalties...
etc. 70 boules ou 60 boules.
Les royalties touchées par Sony et Microsoft.
Ouais, mais
tout simplement.
Il y a pas de royalties.
Okay. Les jeux sont vendus moins cher.
Il y a pas de royalties touchés sur PC si tu le vends directement. Après, si tu le vends par Steam, tu vas payer une espèce de location en fait de droit à être sur Steam, mais qui en fait ça se paye sur le prix de vente.
C'est la porte d'entrée ouais, qui est chère en fait.
Ouais, voilà, en gros, c'est-à-dire la porte d'entrée, le ticket que tu vas avoir annuel pour mettre des jeux, il va être à un certain prix qui est effectivement relativement élevé, mais derrière t'as plus rien. Et sur PC, enfin, tu peux estimer, c'est simple, si t'as 10€ d'écart entre les versions PC et Xbox One, tu peux estimer que grosso modo, Sony et Microsoft touchent à peu près 10€ sur chaque galette vendue. C'est à peu près ça le truc qu'il faut se donner.
Ah, ok.
Faudrait peut-être avoir l'avis d'Oscar sur la question.
Alors, il y aura sûrement Oscar qui pourra nous donner son avis sur la question. Je vous propose de faire une pause musicale et d'entamer
la suite.
Avant
qu'on fasse la pause, je voudrais juste poser deux questions qui ne trouveront pas de réponse. Je me suis demandé finalement si la taille de l'écran du Gamepad, c'est 6,2 pouces. Ouais. Alors, je me demandais si pour définir cette taille, Nintendo s'était servi de
la
vitre
de
si rare, de la vitre de si rare, et si finalement un écran 6,2 pouces était suffisant pour utiliser le dojo en authentificateur.
Je pense que non. Alors déjà, il faut tenir le gamepad non pas à l'horizontale mais à la verticale pour pouvoir utiliser le dojo authentificateur, hein, puisque sinon ça rentre pas, hein, ça c'est clair.
Déjà.
Et si rare, je pense que même en diagonale, il va avoir le bout qui touche les deux sticks, quoi.
Ouais.
Le bout qui touche les deux sticks.
Ouais.
Tu peux dire celle-là, faut qu'on la mette en citation du dojo, parce que je pense que... Bref. Bon, on va passer à notre deuxième pause musicale, parce que là, on est un petit peu à la bourre, quand même. Donc on va s'écouter toujours du Smooth McGraw parce que Croc, j'ai envie d'écouter du Smooth McGraw. Et là le barbu chante Super Smash Bros. Mais... Et donc on se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes. À tout de suite. Vous avez pu admirer les fantastiques gémissements de Fro pendant le jingle.
Quel organe.
On me dit souvent.
Et donc, dans cette deuxième partie d'émission, parce que mine de rien, l'actualité, ça a pris beaucoup de place là, nous allons parler du Nintendo bashing. Alors, Medius, puisque tu fais partie des gens qui pensent qu'il y a effectivement une tendance à faire du Nintendo bashing en ce moment, et ben oui, voilà, tu vas te démerder pour introduire le sujet.
Oh, j'ai introduit où ? Garde bien les jambes, mon enfant.
Oui, vas-y.
Ah, comment est-ce qu'on peut introduire un sujet pareil ? Mystère.
Bah, Tout le monde se repasse le ballon. La presse fait-elle du Nintendo bashing ? C'est à chaque fois qu'on entend parler de Sony ou de Microsoft, ils font des choses formidables, c'est des gens bien, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont bien peignés, ils sont lavés, ils sentent bien.
Ils sont bien peignés. Tonton Satoru, il est toujours bien peigné.
Ah oui, tonton Satoru, c'est le seul à être toujours bien peigné.
Bah, attends, Nintendo. Il a toujours la classe.
Non, mais t'as l'impression que Sony, Microsoft, ils sont beaux, ils sentent bon, ils votent à droite, quoi.
D'ailleurs,
et que Nintendo, c'est les vilains qui canardent. Moi, je trouve ça un peu triste.
Je soupçonne Frosty de rêver d'avoir plus de cheveux pour se peigner comme Miyamoto, comme Iwata.
J'avais avant, mais je me peignais comme Miyamoto.
Moi, je suis en train de faire pousser une coupe au bol à la Iwata. Comme principe.
Carrément. Donc voilà le constat grosso modo, c'est tout simplement que l'image de Nintendo, et Nintendo a toujours eu du mal avec son image déjà par le passé, vu qu'il y avait l'époque où
Nintendo
c'était pour
alone.
Les enfants. Ouais.
Ah. Il sent
très très bon. bon,
je pense que ce n'était pas la voix de Kaliken.
Tu ne connais pas ma voix encore.
Il y a eu l'époque des années 90 où Nintendo a la réputation de faire des jeux pour enfants. Puis il y a eu la réputation, la période Wii où finalement Nintendo a la réputation de faire des jeux pour casu. Et maintenant, il y a Nintendo qui a la réputation de pas vendre de jeux. Et finalement, on remarque, moi j'ai remarqué du moins, que le traitement, sur le côté anglophone ou francophone, dans la presse, enfin dans la presse, c'est marrant de dire la presse pour ce bandeau de prix, sur les gros sites généralistes, était très inégal, le traitement était très inégal entre Nintendo et les autres constructeurs, et même les autres éditeurs de jeux finalement. Et je me suis dit, bon voilà, je suis certainement pas le seul à avoir fait ce constat. Et qu'en pense le peuple ?
Ah bah, dès que tu dis que t'as une console Nintendo, c'est genre.
Ou dès que tu dis la Wii U, c'est bien.
T'es dans un dîner mondain, tu dis que t'as une Wii U et que t'as 50 jeux sur Wii, les mecs ils te regardent une.
Ouais.
Genre quoi, mais t'as pas la PS4 ou la Xbox One ? Bah non, y'a rien dessus, donc je vais pas la prendre quoi.
Bon, y'a rien dessus, des fous, y'a.
Y'a les mêmes jeux PC, bah oui, forcément.
Call of Duty, frère ! Call of Duty !
Ah, Call of Duty !
On se fait en Call of !
Donc voilà, c'est très con, mais on va retomber dans les mêmes. Moi, je trouve qu'on retombe dans la même période que la N64 et la GameCube. On était genre le petit groupe au collège et au lycée à avoir des consoles Nintendo, et puis tous les connards à côté avec leur PlayStation, et puis c'est tout. Et après, la Xbox sont allées arriver. Mais ça nous empêchait pas d'avoir des bons jeux, quoi.
Oui.
Donc moi, je regarde sur Wii U, il y a quand même des bons jeux, hein, avec les Donkey Kong, les machins. Enfin, il y a quand même. Une bonne dizaine de très bons jeux exclusifs à la console, en plus.
Mais,
que tu peux pas trouver sur PC, quoi.
Moi, ça me rappelle le sujet que t'avais fait sur Mario Golf World Tour, où tu sais, quand Nintendo fait des DLC, ils se font défoncer la gueule.
Ah ouais,
quand c'est Electronic Arts, qui fait des Season Pass, il n'y a pas de problème, quoi.
Ouais, surtout que là, on parlait de DLC à 12€ quand tu prenais le Season Pass. Contre les Season Pass qui habituellement sont à 20€, alors
voilà, mais
j'ai payé ton jeu 60 coups derrière.
Rien que le principe du Season Pass, ça devrait être interdit, quoi. Les mecs, ils ont pas encore sorti leur jeu qui te dévoile déjà le planning des DLC et te file un prix pour le Season Pass.
D'ailleurs, à propos de Nintendo bashing, il y a un truc que j'ai. Genre, on n'est pas les seuls à l'avoir remarqué, hein, je vous rassure. Je pense que vous connaissez tous James Rolfe et Mike Mattei,
oui,
sous les noms de Angry Video Game Nerd et Motherfucking
oui.
Mike.
Yes.
Donc vous
les
connaissez forcément. et son petit camarade de jeu, ils font un truc qui s'appelle James and Mike Mondays tous les lundis, en fait, où ils font une espèce de let's play, en fait, un peu simplifié. Et là, ils jouaient sur Wii U à Nintendo Land lundi, et je sais plus, à un moment, ils commencent à discuter du truc, justement, en disant, mais c'est quand même marrant que tout le monde parle de la Xbox One et de la PS4 alors que c'est des consoles de merde. Et je m'attendais pas à ce que James et Mike, qui sont quand même plutôt des gens qui sont connus pour être assez, on va dire assez consensuel et assez classique, et je veux dire, c'est des gens qui jouent à tout. Mais Mike qui disait, mais attendez, sur Xbox One, je sais pourquoi ils l'ont appelé One, c'est parce qu'il y a un jeu potable. Et voilà, et je trouvais ça étonnant, parce qu'effectivement, c'est des consoles sur lesquelles il n'y a pas grand chose de potable, et pourtant. Le South Park où ils se battaient pour la Xbox One ou la PS4, la Wii U, rien à foutre. Et t'as plein de choses comme ça où. Tu te rends compte que Nintendo, tout le monde s'en fout, alors qu'en réalité, les autres sont pas meilleurs, quoi.
Comme les exclus, tu vois, l'exclu PS4, Infamous Second Son, voilà, putain, c'est le troisième ou quatrième Infamous, on sait que c'est pourri comme licence, quoi. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas fou, quoi.
C'est un bon jeu,
c'est joli, c'est marrant.
Les amateurs considéreront ça au mieux comme un bon jeu.
Ouais, tu vas jouer 15-20 heures, tu vas t'amuser, mais basta. Ça va pas être le jeu ça va pas être le jeu révolutionnaire ou le jeu dans 10 ans t'y joueras encore parce que t'as envie d'y jouer, quoi.
Dans le fond, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on reproche à Nintendo pour en faire un traitement différent?
Ce qu'on reproche, je pense, c'est de refaire toujours un peu les mêmes jeux. Enfin, on peut critiquer Electronic Arts avec leur FIFA 14,
mais
là on arrive à Mario. On arrive à Mario Kart 8.
Prends n'importe quel éditeur, qu'est-ce qui refait pas le même jeu? Enfin, pas le même jeu, mais je veux dire, à qui est-ce qu'on pourrait pas faire le même reproche, mais réel, quoi.
Mais dès que t'as une série qui marche, les mecs, ils te font des suites tous les ans, les Call of, l'Assassin's Creed et tout, c'est normal.
Attends, Assassin's Creed, c'est quand même assez effrayant parce que la série, elle existe depuis 2007 et il y a 7 épisodes.
Ouais, c'est ouf, hein. T'en as un tous les ans. Et
attends, pourtant, t'en as vraiment un tous les ans, quoi, en moyenne.
Plus que 7, si t'ajoutes l'épisode.
Non, PS, t'en as 7. 7 en 7 ans.
Ouais.
Donc, j'ai déjà dans. Ouais.
C'est comme ça, c'est tout. C'est après, aussi, t'as aussi le fait que. Tu mets Mario à côté de, bah, du perso de Watch Dogs, je sais même pas son nom, et je pense qu'on le saura jamais. Voilà, bon, bah, on verra dans 10 ans si on s'en souvient. Lui, il a un téléphone portable, il a un flingue à la main, il est masqué, machin, c'est un super hacker à deux balles. Et c'est forcément un peu plus vendeur qu'un Mario, en fait, au niveau du personnage.
Oui, non, mais si aujourd'hui tu te présentais au comité de direction de n'importe quel éditeur de jeux vidéo en leur disant, bah, mon héros, c'est un plombier moustachu avec une salopette rouge, je pense que tu te ferais juste défoncer la gueule.
C'est hyper compliqué pour Nintendo. C'est pour ça que d'ailleurs, même avec Zelda, ils ont
une carte à jouer. Nintendo, c'est. Je crois que Nintendo, c'est un peu le Walt Disney du jeu vidéo et que c'est un peu le même syndrome. C'est-à-dire que quand tu vas voir un très bon film, tu dis « Ouais, ça défonce », mais t'assumes un peu moins d'avoir kiffé un Walt Disney parce que ça te ramène un peu au fait que bah, c'est un truc pour les enfants et tout, mais ça n'empêche que c'est quelque chose d'extrêmement bien fait, extrêmement bien construit. Et je pense que Nintendo se traîne un peu cette réputation de jeu vidéo pour enfants, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, mais nous, on est un peu dans cette...
Nintendo traîne cette réputation jusqu'au point que même les gens qui connaissent le milieu du jeu vidéo normalement ont un traitement tout à fait bizarre, on va dire.
Oui, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est surtout
le grand public se perde, ok, mais finalement que les gens qui sont censés parler du jeu vidéo et le commenter non pas se perdre mais relaient de fausses informations, bah forcément derrière le grand public il s'y perd, quoi.
Oui, mais t'as vraiment le traitement à deux vitesses. Hein.
Personne n'a capté la Wii U lors de sa présentation, nous, on avait capté directement. Mais je veux dire, quand tu remarquais qu'il y avait des gros sites, genre Gameblog, pour ne pas le citer, qui n'avaient pas capté directement ce que c'était la Wii U, mais c'est juste hallucinant de ne pas capter directement la présentation qu'il y avait eu. Tu vois, à partir de là, les mecs qui font... qui ne comprennent pas ça, je ne vois pas comment, auprès de leur lectorat, ils pourraient véhiculer une image.
Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au niveau des sites web, les plus lus, c'est pas forcément avec les équipes les plus pas les plus passionnées, mais
non, ça c'est clair.
Pour moi, Gameblog ou jeuxvideo.com et autres, je considère ça comme les closers en fait du jeu vidéo. En gros, c'est ils vont te raconter de l'actu à balle. Voilà, il y aura. Là, j'ai regardé pour Watchdog par exemple. Tu fais une recherche Watch sur la homepage de Gameblog, il est 30 fois.
Ouais. Bah oui.
Les mecs ils font ça parce qu'ils gagnent des thunes dessus et puis voilà, c'est de la publicité. Ouais. Nous par exemple, NDM ou le Dojo, peut-être Nintendo Différence et autres sites Nintendo, vu qu'on n'est pas payé, forcément on va parler que des trucs qu'on aime bien et que des trucs sur lesquels on est un peu plus spécialisé, quoi. C'est normal.
Après, t'as même après chacun apprécie son machin comme il veut, mais t'as même des sites. Moi je prends Factor News que j'aime beaucoup pour l'actu généraliste.
Ah, Factor News, c'est très bon.
Le traitement qu'ils font d'actu Nintendo, ça dépend du rédacteur, mais bon, après, c'est un petit peu leur marque de fabrique de faire du troll un petit peu dans tous les sens, c'est pas de problème. Ouais. Mais je veux dire, quand tu vois les commentaires parfois de la communauté, c'est ouf.
Non, mais tu vois, il y a des sites qui le font très bien, tu regardes Gamekult. Ils trollent pas tant que ça. Ils trollent pas tant que ça sur Nintendo.
Non, ils trollent pas, mais enfin, ils trollent sur rien, mais ils ont quand même un traitement biaisé. Quand tu vois que dans les moins de Mario Kart 8, ils mettent, ah oui, mais vous savez, quand on joue à 3 ou 4, c'est que à 30 images secondes.
Mais attends,
le problème c'est qu'un Assassin's Creed 4, ils te mettent pas qu'il est à 30 FPS, quoi.
Voilà.
Donc, pourtant il est à 30 FPS, enfin, tu vois, c'est un truc à la con.
À quel moment dans le test de Watch Dogs qu'ils ont publié ce matin, à quel moment est-ce qu'ils ont mis que le jeu était que à 30 FPS?
Non mais ça c'est pas, je pense que c'est inconscient. Quand tu joues à un Mario Kart, tu t'attends, on va dire, le truc sans défaut. C'est vraiment un jeu Nintendo, ça va être sans défaut. De toute façon, il n'y aura pas de DLC, il n'y aura pas de mise à jour, ça doit être sans défaut. Comme un Zelda, par exemple, quand ça sort, c'est sans défaut, il n'y a pas de clipping, il n'y a pas de machin, c'est nickel.
Ouais, alors bon, que... ça dépend.
Non, mais voilà, ça dépend. Mais dans ta tête, en tant que joueur, ça fait 30 ans que tu joues ou 25 ans, t'as ça en tête. Moi, quand je joue à Mario Kart, je m'attends à un truc parfait pendant la prochaine génération de consoles, quoi.
Ah oui, mais ça, complètement. En même temps, en voyant Watch Dogs qui sort aujourd'hui, par exemple, il y a eu 5 ans de développement, je m'attends à ce qu'il soit nickel aussi, quoi.
Ouais, mais là, c'est pareil.
Je m'attends à un même traitement.
Un jeu qui est développé par Ubisoft avant, enfin, c'est con, mais maintenant, j'ai une mauvaise image, moi, d'Ubisoft et d'Electronic Arts ou d'Activision. quand ils sortent un jeu, c'est pas parce qu'il va avoir 5 ans de développement qu'il va être très bien. Moi, ça me fait même flipper, ouais. En fait, quand on me dit, putain, il a 5 ans de développement. Ah ouais, d'accord, les mecs, ils ont 40 studios dans le monde, ça fait 5 ans qu'ils sont dessus, quoi, d'accord. On va se taper un truc de fou, quoi. Tu regardes les génériques dans les jeux Assassin's Creed, c'est un truc de malade.
Oui, non, le générique, il dure 20 minutes.
Il fait le tour du monde, quoi. Les cailloux sont faits en Chine, les murs, ils sont faits à Paris, et puis les persos, ils sont faits à Montréal.
Récemment, j'ai fait les Rayman Origins et Legends, l'un à la suite de l'autre. Putain, là, le générique de Legends, il met, sur Wii U, il met, je sais pas moi, j'ai mis 20 minutes avant d'en voir le goût, quoi.
Ah oui, mais c'est
fou.
Alors que normalement, on te fait comme la pub de dire voilà, c'est fait par Ubi Montpellier, ils sont petits, ils sont machins, ils sont trucs. Mais en fait, c'est fait par 300 personnes, quoi.
Donc on est bien ce que dit Kaliken, finalement on est bien dans le syndrome Disney ouais. Plus ou moins, c'est-à-dire qu'effectivement on s'attend à un niveau en gros ils sont pas notés sur le même barème que tout le monde parce qu'on s'attend à ce qu'ils fassent un truc qui est largement au-dessus
mais,
des
mais
autres
aussi,
c'est comme à Pixar peu... ouais, comme Pixar, comme plein de trucs comme ça, quand ils sortent un film faut que ce soit parfait sinon t'es déçu en fait, comme le prochain Star Wars, s'il est pas parfait bah voilà, tu vas être déçu.
Et je sais pas si c'est une question de barème véritablement, dans la mesure où Nintendo, ils ont une marque de fabrique, ils ont une différence sur leur choix, par rapport à leur console, dont on dit qu'elles sont dépassées techniquement, mais en réalité, la Wii U, pour son prix, t'en as pour ton argent, parce que t'as un gamepad, parce que t'as des fonctionnalités, du bidule, du machin, t'as le online gratos, tu payes ta Xbox One ou ta PS4 400 boules, si tu la gardes 5 ans, tu veux jouer en ligne, tu vas payer 5 fois 50 euros.
Oui, mais après
le online. Tu vas payer une console derrière, presque.
L'online gratos, c'est aussi. Combien il y a de démos, par exemple, sur Wii U ? T'en as 10, quoi.
Ouais, mais combien de démos sur la console aussi ?
Bah, t'en as. Ouais. T'en as 3-4 par mois, minimum,
c'est
quoi.
Non, mais c'est comme la quantité de jeux, quoi. Tu vois, on dit que la Wii U, il n'y a pas de jeux. La PS4 et la One, là, elles ont 7 mois de vie. 6, pardon. Non, 7, pardon, voilà. Il n'y a pas de jeu. Et la Wii U, après 7 mois de vie, il y avait Pikmin 3 qui pointait le bout de son nez, il y avait Monster Hunter, il y avait. Il y avait un calendrier, quoi. Là, le calendrier d'ici la rentrée sur les deux autres consoles, à part des titres qui vont sortir sur PC et qui ne sont pas forcément les meilleurs aussi, il n'y a rien. Sur Wii U, tu avais déjà une brouette de 10 jeux, quoi. De 10 jeux vraiment bons.
Non, on l'a dit plusieurs fois. Tant que Mario Kart n'est pas sorti, la Wii U ne va pas décoller.
Non, mais c'est même pas la question qu'elle décolle ou pas, c'est juste la question qu'ils disent c'est une console où il n'y a pas de jeu, etc.
C'est quoi
ça?
Bah, c'est pas
oui, allô?
Ah, excusez-moi, le téléphone du Dojo Bar. Allô? Ah, je crois que c'est Tonton Satoru qui nous appelle en direct du Japon. Je ne prends pas tout ce qu'il dit.
Apparemment, il a de gros soucis. Il a de gros soucis à Kyoto. Il va couper son salaire en deux, minimum. C'est la grosse galère pour lui, il va bientôt devoir présenter les résultats annuels, et vu qu'il avait promis tout plein de milliards de yens, et que ça va, il va couper son salaire en deux, il va aussi couper ses mains. Satoru coupe pas tes mains, Satoru.
Non mais Tonton Iwata, non, c'est un petit peu extrême ça comme réaction, faut pas faire ça, faut essayer de, je sais pas, tu peux réorienter ta carrière.
Il dit que ça pourrait peut-être une opportunité pour lui de voyager. Par contre, il hésite entre retourner faire des Kirby chez HL Laboratory ou bien aller botter le cul de ce gros connard de Reggie aux États-Unis et prendre sa place. Oula.
Non mais Tonton Satoru, ça c'est pas la solution, surtout que Reggie au final il y peut pas grand chose, c'est pas lui qui l'a fait le design de la Wii U, je dirais. Lui il est là pour botter des culs, hein, basiquement, le reste c'est pas trop son business, hein. Donc non, faut pas penser comme ça, Tonton Satoru, faut essayer d'être un peu positif là. Ça va finir par se vendre là.
Il dit qu'il en a rien à foutre et que Reggie il avait qu'à vendre des Wii U, c'était pour ça, même si c'était de la merde, il devait la vendre. Oui, il pense qu'il va aller aux États-Unis.
Il insulte nos mamans là, bâtard.
Et dans la foulée, il aimerait bien encore rediriger sa carrière. Il hésite entre golf et censé dans le gangster rap. Il a déjà écrit les premières mesures d'un titre qui s'appelle Directly.
D'accord, ben on va peut-être
directly to us.
Non, Satoru, non, on va pas écouter un extrait tout de suite hein, de ton prochain album. On va te laisser ça. On va d'abord attendre de voir ce que vont dire les actionnaires. Hein. Voilà, on va pas trop s'avancer. Je pense que c'est quand même mieux. Voilà, merci tonton Satoru. Merci. Tonton Satoru donc, il nous a appelé en direct. Donc effectivement, alors lui, le fait que ça se vende pas et que le traitement soit différent, vous voyez, ça a quand même des petites conséquences. Hein. Il va devoir couper son salaire, peut-être se couper les mains.
Harakiri.
Voilà, Harakiri, non, c'est quand même pas neutre. Hein. Vous vous rendez compte, il y a la vie d'un homme en jeu, messieurs de chez Gameblog.
Acheter des Wii U, bordel de merde.
Il y a les mains d'un homme en jeu. Comment il va faire pour se masturber pour le Nintendo Direct?
Mais oui. Chez la Wii U, elle est rétrocompatible, les autres non.
Attendez, rétro-compatible, navigateur rapide, vous pouvez regarder YouPorn et YouTube en même temps.
Voilà.
Le online gratuit, moi je vois pas de raison quoi.
On voit pas de raison.
Et Mario Kart 8 bientôt.
Nintendo,
ils essayent plein de trucs, ils essayent différents modèles économiques, le système de paiement différent avec le NFC, ils ont des concepts, des manières de jouer. 1% devrait les aimer, je trouve.
Ben voilà, donc là, le grand mot d'aujourd'hui ce sera aimons Nintendo.
Aimons Nintendo.
Nintendo est notre ami. Ah, il faut l'aimer aussi. Je suis désolé.
On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 3. Le calendrier vite fait pour le 3, c'est les premières conférences, c'est le 9, mardi 9 à 18h30, c'est Microsoft. À 21h, c'est Electronic Arts. À minuit, c'est Ubisoft. À 3h du matin, c'est Sony.
Non, mais à minuit, on va dormir, de hein, toute façon.
Ah non. Bah, disons que Ubisoft et Electronic Arts, on s'en bat les couilles, sauf qu'Electronic Arts, il va peut-être y avoir Mirror's Edge 2 quand même.
Ah.
Ubisoft, il va peut-être y avoir Beyond Good and Evil 2
Parce que tu y crois vraiment, toi.
Bah, oui, Beyond Good and Evil 2, c'est quand même...
Ils sont obligés, hein. Ils sont obligés, ils ont montré le...
Attends.
À l'E3 dernier, ils ont...
Ils sont rien.
Je te rappelle que Duke Nukem Forever, on a vu des images pendant 10 ans. Alors, ok, il a fini par sortir...
Et Watch Dogs, on l'a vu il y a 2 ans, donc c'est bon, hein, t'inquiète.
Non mais voilà, Beyond Good and Evil 2, c'est le meilleur vaporware depuis Duke Nukem Forever.
Mais ils n'ont pas d'argent,
ouais, c'est vrai. Et surtout, donc, on aura Nintendo le lendemain à 18h30.
Avec la Wii HD, à une tarde, la Wii HD, certes.
Ils vont montrer le secret de la Wii.
Ouais.
Waouh. Ça va être trop bien.
Ça va être
la classe. On va avoir une
promesse. Bon, voilà. Donc maintenant, on attend la blague de Kaliken, voilà, parce que c'est sa punition pour être venu tout de suite.
Eh, mais
donc,
la punition, blague. Ça va être pour vous. Hein.
Non, mais vas-y.
Raconte-nous un truc.
Tu coupes après, hein ou...
Non, mais je nous laisse rigoler avant, mais je vais faire le bâtard jusqu'au bout. Là.
Mais c'est. Vous prenez un risque. Bon, alors, c'est les 7 nains qui partent visiter la Laponie. Ok. Et bah ouais.
Voilà la base.
C'est nul. Et donc ils vont rencontrer le Père Noël, donc ils le cherchent et puis ils trouvent le Père Noël. Et là t'as prof qui va demander au Père Noël, Père Noël, est-ce qu'il y a des femmes en Laponie? Donc le Père Noël il répond, oui bien sûr il y a des femmes en Laponie. Prof il continue, il fait, bah, est-ce qu'il y a des femmes naines en Laponie? Alors le Père Noël il répond,
des femmes naines, oui mais il n'y en a pas beaucoup.
Alors le prof il continue, il fait, mais est-ce qu'il y a des femmes naines et noires?
Des femmes naines et noires, bah, non, il n'y en a pas en Laponie.
Et prof, il dit, bah, tu vois, Simplet, je t'avais dit qu'il n'y en avait pas, t'as niqué un pingouin.
Oh la vache.
Bon, allez, à dans 2 semaines.
Ciao.
Salut.